Souvent, on vous parle ici de ces affaires non élucidées, ces affaires qui intriguent par leur complexité, mais qui représentent aussi souffrance et espoir pour des milliers de familles plongées dans l'attente. Pour résoudre ces vieux dossiers, des équipes spécialisées d'enquêteurs se sont constituées avec des méthodes nouvelles, des approches parfois différentes. C'est exactement ce que fait notre invitée exceptionnelle de ce dimanche, Marie-Laure Brunel-Dupin. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes lieutenant-colonel de gendarmerie. Vous dirigez la cellule Diane, on en parle souvent sur ce plateau de la cellule Diane, c'est la division des affaires non élucidées de la gendarmerie. Vous avez une spécialité, c'est le profilage, l'analyse comportementale des individus. Vous avez amené ça en France, on en parle beaucoup dans les séries américaines, on parlait de séries il y a un instant avec Alain Bauer. Vous avez introduit tout cela en France et vous racontez votre métier à travers un personnage, c'est votre deuxième roman, Serrer les dents. Et il y a le premier qui est là,
oui, c'est ça.
Avant que ça commence, le deuxième, Serrer les dents, rédigé avec Valérie Perronnet, on la salue également. Très intéressant, on va en parler parce qu'en fait, on découvre votre métier. On découvre vous, un peu à travers ce personnage. D'abord, je voudrais une petite question très personnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le profilage, à vous dédier à ce qui ressort comme une passion à travers votre roman et à ce qui permet, je le disais, de répondre à l'attente de nombreuses familles, parce que c'est ça le but final. Qu'est-ce qui vous anime ?
Alors, je crois que ce qui m'anime depuis le départ, c'est ce qui anime tous les enquêteurs qui travaillent sur ces affaires difficiles et complexes, c'est l'envie de solutionner ces affaires pour les victimes, pour leurs familles. Donc, ce côté vouloir participer à cette justice, et sous un angle différent qu'on n'avait pas. Et c'est ce que j'avais envie d'apporter. Moi, j'aime bien comprendre. Ouais. Je suis même parfois obsessionnelle sur beaucoup de sujets.
Il faut peut-être l'être pour que ça fonctionne.
Il faut peut-être l'être. Et en tout cas, ça fait partie intégrante de ma personnalité. Mais j'aime comprendre pourquoi ça s'est passé. Et si le fait de comprendre permet aussi de l'utiliser pour résoudre les affaires, et ben en fait, comprendre un crime, c'est déjà le résoudre un peu.
C'est ce qui vous a amené au profilage et à introduire cette science en France. Racontez-nous.
C'est ça. Alors ça, nous, on appelle ça le département des sciences du comportement. Oui. Donc on appelle ça analyste comportemental et pas profiler, oui. Pour éviter le côté série télé. Et oui. Puis parce que analyse comportementale, ça couvre un champ plus large. Donc,
Et moi, j'ai une question très prosaïque. C'est quoi votre métier? Comment vous travaillez?
Alors, l'analyse comportementale, il y a une petite différence puisque j'ai commencé analyste comportementale et depuis 2 ans, je commande la division des affaires non élucidées. Et donc, je ne pratique plus l'analyse comportementale, même si ça reste évidemment dans mon ADN. L'analyse comportementale, ça consiste à partir d'une scène de crime,
oui.
De ses éléments objectifs, jamais des suspects, contrairement à ce qu'on voit dans les séries télé, et ce qu'on a aussi voulu montrer dans le livre, c'est que c'est pas ça. Donc on part des éléments objectifs d'une scène de crime, de la criminalistique, et on en tire des grandes lignes de personnalité de l'auteur potentiellement capable d'avoir commis ce crime. Et partant de ces grandes lignes de personnalité, on peut orienter les enquêteurs dans les suggestions d'investigation, ou s'ils ont des suspects dans une priorisation, ou ouvrir sur des hypothèses qu'ils n'avaient pas forcément parce que cette compréhension de la scène de crime leur apporte quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va de la scène de crime jusqu'à la cour d'assises. Puisque voilà, les analystes comportementaux de la gendarmerie nationale sont tous des officiers de police judiciaire. Donc c'est pas ils sont pas extérieurs à l'enquête, ils sont des enquêteurs spécialisés.
Pas comme dans les séries, pardon.
Exactement, ils arrivent pas avec
Merci.
C'est des OPJ, tout à fait, c'est des gendarmes. Et donc ils vont aussi aider sur des gardes à vue.
Oui.
À partir du moment où on a bien compris la scène de crime, qu'on a compris la personnalité d'un suspect, on pose mieux les questions.
Et donc on peut les adapter, c'est-à-dire qu'on peut les calibrer.
C'est ça. L'objectif, c'est d'avoir la vérité. Hein. Ça fait pas avouer les innocents. C'est pas non plus ce qu'on voit dans les films. C'est pas à l'oreillette.
Ouais.
C'est un travail de préparation long avec les enquêteurs qui vont prendre cette garde à vue. Un travail de réajustement, mettre l'auteur dans les meilleures conditions possibles pour obtenir la vérité et les aveux, si c'est lui, bien sûr. Et tout ça finit à la cour d'assises.
Oui.
C'est important parce que quelque chose qu'on oublie aussi dans le métier. C'est que ça doit être bien de la scène de crime jusqu'à la cour d'assises parce que ça, on doit apporter des explications sur le travail qu'on a fourni. C'est pas forcément un moment facile.
C'est pas forcément le moment que vous préférez.
Non,
parce qu'il faut rendre des comptes d'une certaine manière.
Ouais. C'est pas tout à fait le moment préféré, mais en même temps, c'est important de venir expliquer pourquoi tous ensemble on a bien travaillé, parce que c'est pas un boulot solitaire comme on l'imagine aussi dans les séries. On n'a pas un profiler tout seul dans un bureau. On a une équipe d'analyse comportementale qui vient s'associer à une équipe d'enquêteurs spécialisés avec les unités de recherche.
Encore plus concret, il faut reprendre la vie de Mina Lacan. Mina Lacan, c'est vous.
Alors, elle me ressemble et lui ressemble, mais elle n'est pas moi.
Allez, on va dire que c'est un peu vous. Mina Lacan, c'est un peu vous et elle mène l'enquête. Ça commence à Aubernais, on est le 24 janvier 2004. Aurélie et sa tante Elisabeth, Aurélie a 27 ans, sa tante a 49 ans, vont être retrouvées assassinées dans leur maison qui a brûlé, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez arriver, enquêter. Mina Lacan va arriver, enquêter. Elles ont les yeux bandés, les chevilles attachées. Aurélie va avoir subi des actes de torture particulièrement violents. Comment vous faites ? Vous arrivez, racontez-nous ce que fait Mina Lacan.
Alors, Mina Lacan et son équipe vont arriver sur cette scène de crime et vont prendre toutes les précautions qui vont avec le respect des lieux et des scènes de crime. C'est important aussi d'être précis. Et puis, on va prendre en compte tout cet espace, tout ce qui s'est passé sur cette scène, le chemin, la façon dont dont l'auteur a mis le feu, quel type de feu, comment, pourquoi.
Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez dans la tête de celui qui a commis le crime plus que sur les victimes, entre guillemets.
Alors, on fait les deux. La part de victimologie, elle est très importante parce qu'il faut connaître la victime pour savoir quel genre d'interaction il y a pu y avoir. Donc, c'est cette partie-là. Mais connaître les victimes, et faire cette analyse en victimologie, tout le monde peut le faire.
Et puis ça suffit pas.
Donc il faut vraiment être articulé entre les deux, c'est-à-dire les réactions de l'auteur. Alors pas de fascination pour les auteurs, c'est vraiment mon leitmotiv et c'est important pour eux. Donc on n'est pas fasciné, on ne ressent pas leurs émotions, mais on se met dans leurs pas pour essayer de comprendre ce qu'ils sont venus chercher sur cette scène. On se met dans leur tête, oui, forcément, puisqu'on cherche le mobile, on cherche le pourquoi, quand on a le pourquoi, pour savoir qui. Donc, c'est une articulation particulière, donc il faut rentrer dans leur tête.
C'est une approche différente, nouvelle. Mina Lacan, quand elle fait ça, elle a un peu de moquerie. On la regarde un peu bizarrement. Ses collègues peuvent dire, c'est bien gentil, cette histoire de profilage, mais enfin, c'est des trucs de télé. Est-ce que vraiment ça va nous aider ? Vous avez vécu un peu ça ?
Oui, on a vécu ça au début. Mes camarades qui sont encore là avec à mes côtés pour en parler peuvent le dire. On a vécu ça, c'est du passé, vraiment. Là, on est en 2004 dans le deuxième roman, on est en 2001 dans le premier. Donc, c'est normal.
Mais en 2024, c'est comment ?
Et en 2024, c'est bien.
C'est mieux. c'est mieux.
On dirige en 2024.
C'est plus un sujet.
On dirige la cellule.
Je suis encore là pour en parler, c'est que ça a dû bien se passer sur la durée. Donc, en 2024, c'est plus un sujet, l'analyse comportementale, ça fait partie de l'enquête judiciaire, c'est pas pour tous les homicides. Non. Et aujourd'hui, ça s'inclut dans une division qui travaille les dossiers différemment. Donc, c'est encore plus pluridisciplinaire depuis que c'est intégré dans la Diane, puisqu'on travaille avec des enquêteurs spécialisés, parcours de vie, parcours criminel, reprise de dossiers anciens, détection de sérialité. On est 23 à la division, c'est une reprise très pluridisciplinaire et toutes ces spécialités viennent se mettre au service de toutes les unités recherche de France.
Alors, on dit souvent qu'il y a une religion de l'ADN, vous voyez, que l'ADN est la preuve ultime. Mais vous, j'ose imaginer que vous pensez le contraire.
Moi, l'expérience m'a montré que non, puisqu'on a eu des erreurs à cause de l'ADN. Donc, bien sûr que l'ADN, c'est important, bien sûr que ça reste un élément de preuve criminalistique très fort et l'analyse comportementale n'est pas un élément de preuve, donc, mais c'est l'ensemble de ces éléments-là. Et, alors, on n'est pas non plus sur la culture de l'aveu à tout prix, mais quand on a des aveux circonstanciés, on est quand même bien.
Revenons peut-être sur les aveux. Les gardes à vue, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais c'est intéressant, à travers le livre, de comprendre quelle aide vous apportez pour une garde à vue. Alors, on prend n'importe quelle... Évidemment, alors avec Pauline, on aurait 10 milliards de questions à vous poser, on va dire aux téléspectateurs, sur plein d'affaires en cours. Il va de soi qu'on ne va pas vous interroger sur des affaires en cours.
Enfin, on connaît votre réponse.
Voilà.
Donc, y répondre.
Voilà. Il y a un peu de frustration sur cela, mais c'est bien normal et on le comprend. Mais prenons ceux de votre livre. Vous avez un suspect en garde à vue. Comment vous allez aider ? C'est-à-dire que vous allez souffler des questions, pas dans l'oreillette, vous nous l'avez dit, mais vous allez souffler des questions, vous allez dire, lui, il faut y aller plutôt un peu
en force.
Dire en force, il faut y aller en douceur. Bah, comment vous faites ?
Alors en fait, on travaille beaucoup en amont, donc on prépare ces gardes à vue pendant les semaines qui précèdent avec les enquêteurs pour faire des stratégies et de se dire, bon ben voilà, s'il se défend plutôt comme ça...
On va faire comme ça,
On va s'adapter. Et en fait, en fonction de leur profil, s'ils sont connus déjà, qu'ils ont eu des gardes à vue, on va faire attention. Je pense à un tueur en série pour lequel il faut pas s'énerver, pas crier, il faut rester toujours très calme parce que sinon il se ferme complètement et on n'a plus de dialogue et sans dialogue on n'aura pas la solution.
Et donc, le droit au silence, il reste un principe cardinal, donc ils peuvent aussi décider de pas du tout collaborer.
C'est ça, donc il faut trouver cette articulation subtile pour le respecter, parce que là aussi c'est quelque chose d'important pour nous, respecter ses droits, son droit au silence, son droit au sommeil, et en même temps, forcément, poser toutes les questions d'enquête qu'on a, et si on a cette conviction, à arriver à l'approuver grâce à des aveux. Donc, beaucoup de préparation en amont, beaucoup de réajustements pendant les pauses, pendant que les gardés à vue dorment, nous on ne dort pas.
Beaucoup de collectifs, c'est ça qu'on comprend à travers votre livre, c'est qu'il y a la force
très
de
collectif.
L'équipe.
Et pour nous, c'est essentiel. Aujourd'hui, j'ai résolu aucune affaire. Et j'estime que vous pouvez revenir dans 10 ans, ce sera toujours pareil. Mais j'ai participé à plein d'enquêtes qu'on raconte finalement un petit peu pour rendre hommage et aux enquêteurs et à ce travail, à cette belle institution.
Et toutes les affaires que vous racontez ne sont pas de la fiction. Elles s'inspirent du réel et elles ont été romancées.
Dernière question, il y aura un volume 3 ?
Alors justement, avec Valérie Perronnet, on réfléchit. L'idée, c'est pas de faire des épisodes d'avoir 50 épisodes de 50 affaires, même si j'en ai des centaines à raconter, mais plutôt de raconter une carrière. Donc les éléments de la carrière sont réels ou réalistes, les affaires sont réelles mais transformées. Et donc on a un petit aperçu dans le premier de ça pourrait être une grande suite.
Merci. Donc on attend le troisième. Serrez les dents. Merci beaucoup Marie-Laure Brunel-Dupin d'être venue sur le plateau d'Affaires Suivantes. C'était un plaisir de
vous
accueillir. Merci beaucoup.